Je n'ai point honte de l'évangile. Je crois donc, je témoigne et je parle. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de l'accomplissement de son plan de rédemption dans le monde. Peuple de Dieu, chrétien du Sud, réveillez-vous, rejoignez le mouvement, investissez-vous dans la mission de Dieu qui consiste à faire de toutes les nations, dans toutes les ethnies, dans toutes les races, dans tous les villages des disciples. Le monde a besoin de notre action, le monde a besoin de Jésus.
Salut à vous mon ami, c'est votre ami Wendell Benjamin Etienne Webb. Quel plaisir de pouvoir vous apporter causerie sur la mission cette semaine, si causerie sur mission à Créole. Merci pour tous vos retours, pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez eu un très bon week-end. Je vous souhaite déjà de passer une excellente semaine sous la protection du Tout-Puissant. Bienvenue à vous dans causerie sur la mission. C'est ici notre 9e numéro. Dans le numéro précédent, le 8e, nous avons traité un sujet assez intéressant intitulé « La mission et l'héritage chrétien entre rupture et continuité ». Nous avons pu évoquer quelques épisodes négatifs et positifs du passé et nous avons dit que nous devons être fermes sans être bordés et fermés, non seulement pour accepter les épisodes négatifs du passé, de l'héritage chrétien, mais pour pouvoir construire un héritage chrétien saint et le transmettre à la prochaine génération. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui est ainsi formulé, la mission et la vision du monde. C'est un sujet assez complexe et assez vaste. Voilà pourquoi je pense que je vais procéder à deux journaux sur un tel sujet. Aujourd'hui, je vais aborder quelques éléments pouvant nous permettre de cerner ce concept si vaste, à savoir vision du monde. Par rapport au sujet en question, notre question est formulée en ces termes. En quoi la vision chrétienne du monde influence-t-elle notre approche de la mission de l'Église? Peut-être que le concept vision du monde vous est familier. Et si tel n'est pas le cas, je vais essayer de vous orienter un tout petit peu, question de cerner, de comprendre ce concept aussi vaste. Cependant, il y a des expressions courantes qui reflètent cette notion de vision du monde, qui nous sont familières, comme ça dépend des lunettes que vous portez. Si vous portez des lunettes roses, vous verrez tout en rose. Si vous portez des lunettes noires, vous verrez tout en noir. Ou ça dépend de votre perception, de la réalité, votre interprétation de la réalité, votre interprétation des faits, des événements. Ça dépend de votre arrière-plan. En fait, ce sont des expressions qui reflètent cette notion de vision du monde. Car, de manière consciente ou inconsciente, nous sommes tous guidés par une vision du monde. Ou nous sommes tous influencés de manière consciente ou inconsciente par une vision du monde. C'est-à-dire des présuppositions, une référence morale, philosophique, spirituelle, religieuse, plusieurs synonymes sont évoqués pour parler de vision du monde. En fait, un synonyme reste un synonyme. Il n'existe pas de vrai synonyme. Donc, il y a des nuances entre les concepts, entre les mots. Mais on utilise parfois le concept cosmovision. On utilise le concept de représentation du monde, paradigme, représentation sociale, conception du monde. La racine allemande du mot, du concept vision du monde, est Weltanschauung. En fait, mon allemand est ce qu'il est. Weltanschauung, composé de deux mots. Welt, qui signifie monde, et Anschauung, qui signifie vision, opinion, représentation. Essayons à présent de voir une définition un peu plus technique et élaborée par James Anderson, qui définit une vision du monde dans ces termes. Une vision du monde est un réseau tissé des croyances fondamentales, présuppositions, valeurs et idées à propos de l'univers et de notre place dans celui-ci qui modèle la manière dont un individu comprend sa vie et ses expériences et la vie et les expériences des autres, la manière dont cette personne se comporte en conséquence. Il y a plusieurs éléments qui nous interpellent dans cette définition. Le premier élément qui nous intéresse, c'est chaque individu a ses propres conceptions de l'univers en fonction de ses croyances et de ses valeurs. Chacun à sa manière d'interpréter l'univers, de comprendre l'univers, ses expériences, etc. Lettré ou illettré, de manière consciente ou inconsciente. Les notions qui entrent en ligne de compte dans ce cas, c'est les notions de valeur, les notions de croyance. Valeur, c'est-à-dire nous fondons notre vie, nous prenons des décisions en fonction de nos valeurs, de notre référence éthique ou morale. Et la deuxième notion, c'est la notion de croyance. La croyance est extrêmement importante à ce niveau, en termes de vision du monde, car il y a deux grands vecteurs de vision du monde, ou de transmission de vision du monde. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Il y a la religion ou les religions, et puis il y a la science ou les sciences, si vous voulez. Par rapport à la croyance, un chanteur a dit « Ta manière de vivre dans le monde est nécessairement une expression de tes croyances. » C'est-à-dire nos décisions, nos interprétations sont influencées par nos croyances et par nos valeurs. Mais il y a un autre élément qui m'intéresse, c'est nos idées. Nos idées ou nos présuppositions ont des conséquences sur notre manière de vivre. Comme l'a dit le philosophe, les idées ont des conséquences. Notre philosophie de la vie, notre manière de voir la vie, influence notre manière de vivre. Il y a plusieurs visions du monde. Nous essayons de les classer en trois catégories. Mais nous devons faire très attention à ces catégories, parce qu'entre ces visions du monde, il y a évidemment des nuances qu'il faut bien cerner et qu'il faut bien comprendre. La première catégorie, c'est vision du monde séculière. Dans cette catégorie, on peut trouver le déisme, le naturalisme, le nihilisme, l'existentialisme, le panthéisme, le nouvel âge et le postmodernisme. Ces visions du monde, dans une certaine manière, influencées par les philosophes des Lumières, c'est-à-dire du 18e siècle, prônent une approche anthropocentrique, c'est-à-dire place l'homme au centre de tout. C'est la science qui détermine ce qui est vrai et la réalité. La réalité et la vérité, selon ces visions du monde, existent seulement dans le monde physique. C'est-à-dire, ce que nous connaissons par nos sens physiques est la réalité. Et dans ce cas, on pourrait dire, si la science devient la norme suprême, on a même tendance à déifier la science. La deuxième catégorie est l'animisme, vision du monde des animistes. Certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, 40% de la population mondiale sont animistes. L'animisme, c'est une forme de panthéisme. Cette vision du monde pense qu'il y a une cause spirituelle derrière tout événement. Les esprits contrôlent tout. L'homme cherche à influencer et manipuler les esprits à sa cause. Par conséquent, cette vision du monde développe une espèce de fatalisme. On entend souvent des expressions comme « c'est comme ça, je ne peux rien changer, je ne peux rien faire, ça a été comme ça, c'est le fatalisme ». Et ça conduit également à une espèce de superstition. Cette vision du monde pense que tout dans la nature est habité par des esprits, c'est-à-dire les plantes, les arbres, les roches, tout est habité par des esprits. Ou en d'autres termes, tout ce qui existe dans la nature a une vie spirituelle. La troisième catégorie de vision chrétienne qu'on pourrait considérer, c'est la vision chrétienne du monde, ou cosmovision chrétienne. Je fais appel à quelqu'un qui a une définition assez simple, mais extrêmement profonde, qui définit la vision chrétienne en ces termes. Il s'agit de Mathieu Girard. C'est voir comme Dieu voit, pour vivre comme Dieu veut. J'aime cette définition. C'est simple, mais extrêmement profonde. Nous sommes appelés à voir tel que Dieu voit, pour faire ce que Dieu veut. À voir le monde tel que Dieu le voit, à voir les humains tel que Dieu les voit, à voir l'écologie, l'environnement, les animaux tel que Dieu les voit. Bref, nous sommes appelés à porter des lunettes divines pour comprendre, pour interpréter la réalité. Mais ici, on doit trouver une définition beaucoup plus élaborée. Et à ce niveau, je fais appel au docteur Richard Ramsey, qui a écrit un ouvrage titré « Intégrité intellectuelle ». Un ouvrage consacré à la défense de la vision chrétienne du monde par rapport aux autres visions du monde. Selon Dr. Ramsey, une vision chrétienne est une mentalité constituée de présuppositions bibliques pour penser à tous les aspects de la vie. Cela est appelé un esprit chrétien, une philosophie chrétienne ou une cosmovision chrétienne. C'est un processus dans lequel le Seigneur nous guérit de notre maladie, de la schizophrénie intellectuelle. Et Dr. Ramsey poursuit. Une vision chrétienne n'inclut pas toutes les réponses, mais plutôt des directives pour la réflexion basées sur des enseignements bibliques et nous rappelle le point de référence de notre base chrétienne pour parler de n'importe quel sujet. Il signifie réfléchir d'une manière chrétienne au sujet de tout. En d'autres termes, il signifie de mettre les lunettes du chrétien pour regarder le monde. Essayons maintenant de comprendre cette définition du docteur Ramsey. Le premier élément à considérer est il existe une mentalité ou pensée chrétienne ou il devrait exister une mentalité chrétienne. À la question existe-t-il une mentalité chrétienne? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Parce qu'on ne peut pas trouver en réalité une mentalité chrétienne élaborée et acceptée par tout le monde ou bien par la chrétienté. Cependant, en étudiant la Bible, les Écritures, on peut construire une mentalité chrétienne ou bien une mentalité biblique. Le deuxième élément qui nous intéresse, c'est la Bible. La Bible est au centre d'une pensée chrétienne, d'où la nécessité d'étudier de manière profonde la Bible. Et trois, une vision chrétienne du monde est englobante, holistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une vision chrétienne du monde tient compte de tous les aspects de la vie. Une vision chrétienne biblique du monde ne tient pas seulement compte des questions théologiques. Voilà pourquoi, dans sa définition, Dr. Ramsey parle de schizophrénie intellectuelle. Qu'est-ce qu'il entend par schizophrénie intellectuelle? En fait, la schizophrénie intellectuelle, c'est pour parler d'une double personnalité, d'une vision dichotomique. C'est-à-dire, quand nous essayons d'interpréter ou de comprendre des éléments ayant rapport avec la science, avec les mathématiques, avec l'histoire, avec le droit, avec l'économie, nous disons, ah bon, ça n'a aucun rapport avec la foi chrétienne. Donc, il s'agit d'une double personnalité et de manière courante, nous trouvons des personnes chrétiennes, par exemple, ou des commerçants, prenons cet exemple, qui vous diront, écoutez, ici, ce n'est pas le chrétien, c'est le businessman. Ou bien, ici, ce n'est pas le chrétien, c'est l'avocat qui est là. Donc, il y a cette différence, cette dichotomie entre le séculier et le spirituel qui fait que nous ne développons pas une vision chrétienne qui tient compte du droit, par exemple, de la politique, de la science, des mathématiques, etc. Donc, nous essayons de développer une double personnalité pour des questions théologiques. Nous nous référons à la Bible, mais pour des questions et en rapport à d'autres sujets, nous disons non, ça n'a rien à voir avec la science. Et ça, c'est faux. Et même par rapport à la culture, par rapport à l'art, nous disons, ah, ça c'est de l'art, ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Il s'agit d'une vision mitigée de la foi chrétienne. En fait, une vision chrétienne du monde s'articule sur l'histoire racontée par la Bible à partir d'un schéma classique, à savoir création, chute, rédemption, et glorification. Essayons de définir ces éléments. Création, la nature a été merveilleusement créée par une intelligence suprême, Dieu, et celui-ci l'a déclarée bonne. Péché, le monde va mal à cause du péché qui a tout corrompu. 3. Rédemption, le sacrifice de Jésus-Christ de la croix procure une espérance vivante et merveilleuse. 4. Glorification, Un jour, tout mal disparaîtra dans sa globalité et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre sans péché. Qu'est-ce que la Bible nous exhorte par rapport à une pensée chrétienne? Deux versets nous interpellent par rapport à une pensée chrétienne. D'abord, Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset est formidable. Il est même au centre de l'éducation chrétienne ou d'une philosophie de l'éducation chrétienne. Romains 12, verset 2. Et le deuxième verset qui nous intéresse, c'est 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. Tenant compte de tout ce qu'on vient de dire, ces deux versets principalement qu'on vient d'évoquer, l'Église et les missionnaires doivent faire beaucoup attention pour ne pas développer et encourager la schizophrénie intellectuelle, c'est-à-dire avoir une vision bornée, une vision dichotomique des faits ou de la réalité pour séparer la foi chrétienne des autres sujets. Nous devons faire attention pour ne pas considérer la Bible comme un manuel de science, par exemple, pour ne pas considérer la Bible comme un manuel d'histoire ou la Bible comme un livre magique qui nous donne des réponses toutes faites à toutes nos questions. Dans la Bible, nous pouvons trouver des éléments, des pistes, des présuppositions qui pourront nous permettre de nous positionner et d'interpréter les faits ou bien la réalité. Deuxièmement, nous devons faire attention pour ne pas cultiver ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire pour ne pas essayer de mélanger le christianisme avec, par exemple, l'animisme. Comme ça a été le cas en Haïti, il y a eu le syncrétisme religieux en Haïti, non seulement en Haïti, mais il y a eu ce phénomène même en Amérique latine. Alors, comment construire une vision chrétienne du monde? Quelle est son épistémologie, sa métaphysique, c'est-à-dire son ontologie, son anthropologie? Quelle est son axiologie, c'est-à-dire son éthique et son esthétique? Notre quête de prière pour cette semaine concerne les chrétiens vivant dans une région au Soudan du Sud, selon un article publié par Info Chrétienne intitulé «
Vague de violence au Soudan du Sud après l'appel à débarrasser la région musulmane
d'Haïti ». Mariel Bang avait 35 chrétiens, marié, père de 4 enfants, âgés de 1 à 4 ans. Il vient d'être poignardé à mort au Soudan du Sud par des hommes qui avaient reçu pour consigne de débarrasser la région musulmane des chrétiens. Prions pour ces chrétiens vivant dans cette région du sud du Soudan, sur le continent africain. Excellente semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.